ton nom, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Oh, tu en es digne. D'écouter le message, Dorothée va porter un ou deux témoignages de la puissance de Dieu dans des vies pour nous montrer que le Seigneur est ressuscité, il est vivant et plein de compassion.
Amen.
Le mot impossible n'existe pas avec lui.
Amen.
C'est pourquoi
Alléluia,
un ou deux témoignages et ensuite nous écouterons la parole de Dieu.
Amen.
Que le Seigneur soit béni.
Amen. Nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. Et j'ai quelques témoignages percutants que j'ai à cœur de donner, que le Seigneur m'a demandé de donner cet après-midi, puisque le Seigneur nous appelle à tourner la page des conventions en France et que celle-ci est la dernière. Alors, pour nous ouvrir d'autres horizons, alors, avec Samuel, nous aimerions une dernière fois, après presque 30 ans de convention en France, nous aimerions donner au Seigneur, le remercier le Seigneur pour tous les cœurs qui ont été touchés, pour tous ceux qui se sont convertis pendant ces 30 ans, pour tous ceux qui ont été transformés par son amour, pour tous ceux qui ont reçu des paroles d'encouragement, qui en ont été bénis, consolés, pour tous ceux qui ont été nourris par la prédication, la parole de Dieu, pour tous ceux qui ont été guéris par sa main puissante au milieu de nous. Et il y en a eu, je vous le dis. Nous avons été témoins de guérisons quand même grandes et merveilleuses. Alors, avec Samuel, nous voulons, et vous tous, peuple de Dieu, ici présents aujourd'hui, pour cette dernière convention, nous voulons vraiment remercier ensemble pour tout ce que le Seigneur a fait au milieu de nous. Et j'aimerais prendre ce verset du psalmiste, psaume 139, 14. Tes œuvres, Seigneur, sont grandes et mon âme le reconnaît bien. Notre âme le reconnaît bien. Un autre verset, aussi dans un autre psaume. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherché par tous ceux qui les aiment, qui aiment les œuvres de Dieu. Son œuvre n'est-ce que splendeur et magnificence. Alors, un de ces matins de cette semaine, le Seigneur m'a réveillé pendant le petit matin, au petit matin, et il m'a dit, tu donneras des témoignages. Et il m'a donné un plan, trois idées précises, trois pensées précises, disons. Et pour introduire ces trois pensées avec des témoignages qui suivront, je prends encore ce verset. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, dit le Seigneur. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. C'est une réalité, mes amis. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons, mais lui ne change jamais. Alors, ces trois points, dont je prendrai le premier avec des témoignages derrière. Nous avons été témoins avec Samuel, comment Dieu nous a démontré qu'il était le Créateur. notre Créateur. Il a dit à Job, c'est moi l'Éternel qui t'ai formé depuis ta naissance. Et alors là, donc le Seigneur sait tout ce qui se passe dans notre organisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tout ce qui ne va pas, tout ce qui péclote, tout ce qui grince. Et nous avons été témoins à Chambéry, peut-être certains d'entre vous étaient présents quand ça s'est passé. C'était un miracle pas mal fort, un miracle. Nous, à ce moment-là, à cette époque-là, à Chambéry, à Montmélian exactement, à la fin des réunions, Samuel et moi avons prié pendant des années pour des centaines de personnes. Et donc il y avait toujours à la fin des réunions, les malades venaient, faisaient la queue pour qu'on leur impose les mains à ce moment-là. C'est ce que nous avons fait fidèlement, nous avons obéi à l'ordre du Seigneur. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous étions en train d'imposer les mains aux malades. Et il y a un jeune homme qui est venu, jeune homme de 18-20 ans, qui était bègue de naissance. Il bégayait. Et c'était une infirmité qu'il avait et ça le faisait beaucoup souffrir, comme tous les bègues, ils en souffrent. Alors, nous avons prié pour lui. Et au moment où nous lui avons imposé les mains, rien de spécial ne s'est passé. Alors lui, il est reparti à sa place dans les rangs et nous avons continué de prier pour les autres malades. Tout à coup, nous avons été surpris par un petit bruit qui se passait dans l'auditoire. C'était un grand auditoire. Et nous avons levé notre tête pour regarder ce qui se passait. Ce jeune homme-là était debout à sa place. Et il avait la main du Seigneur était sur lui. Et il a eu la bouche ouverte comme ça. Paralysé pendant peut-être 30 à 40 secondes, on estime à peu près, on ne sait pas très bien combien, enfin peu importe, comme bloqué, la mâchoire bloquée, ouvert comme ça. Et nous avons vu de ceux qui étaient devant, nous avons vu le Seigneur retourner sa langue dans sa bouche. Et le jeune homme bègue était libre. Il a cessé de bégayer de naissance, 18 ans ou 20 ans. Il est rentré chez lui, il habite là. Et aujourd'hui, on nous a reparlé encore de lui. Il habite la région de Thonon, en Haute-Savoie. Et nous donnons toute la gloire au Seigneur pour cela. C'était un grand miracle, visible. Un autre miracle visible, c'est qu'à cette même convention, il y avait une dame qui avait le bec de lièvre. Vous savez ce que c'est ? Le palais fendu. Et ça se voit même extérieurement, hein, ici, là. Hein, c'était tout à fait déformé. Et le Seigneur, à sa place dans l'auditoire, je me rappelle, il était sur la droite, à sa place, a fermé son palais. Instantanément, sur place. Si ça, c'est pas des miracles dignes de notre Créateur, dites-le-moi. Le Seigneur est notre Créateur. Il est puissant et nous l'avons vu faire des œuvres puissantes. C'est pourquoi nous lui donnons une dernière fois toute la gloire qui lui revient. Un dernier témoignage pour le Dieu créateur. Rapidement, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est une longue histoire, mais qui est merveilleuse. Nous faisions une grande campagne d'évangélisation en Côte d'Ivoire à San Pedro. Et il y avait une foule de 6000 personnes tous les soirs à peu près. Et dans cette foule, il y avait beaucoup de malades. Ils avaient amené des centaines et des centaines de malades, pour pas dire des milliers, à plusieurs soirs. Et il y avait devant, sur une natte couchée par terre, il y avait quelqu'un qui gisait là. Moi, il semblait dormir. Et je me suis dit, c'est un malade de plus. Mais ce n'était pas un malade de plus. C'était pire que cela. C'était un fou. C'était un déréglé qui sont dans les asiles psychiatriques et dans des chambres spécialisées ici. Mais en Afrique, il n'y a pas ce genre d'institution, ils n'ont pas les moyens d'en avoir. Alors les fous, ça court les rues. Donc, et ce fou-là, c'était un jeune d'une trentaine d'années, hein, fou depuis 12 ans. Et ce fou-là, il l'avait enchaîné et il l'avait couché sur la natte. Il l'avait amené. C'était son père qui l'avait amené. Et il était couché sur cette natte. Il semblait dormir, les pieds et les mains enchaînés avec des chaînes, parce qu'il était parfois dangereux, alors il l'avait enchaîné comme ça. Ça fait 12 ans que cet homme-là courait les rues, ne pouvait pas dormir la nuit, il allait se nourrir dans les poubelles, et il était complètement les vêtements déchirés, il ne se lavait jamais, pour vous situer un peu le cas. Et mangeait dans les poubelles et il ne se lavait jamais et il sentait vraiment très mauvais. Et nous avons à ce moment-là prié pour les malades qui étaient dans la foule. Nous ne pouvions pas imposer les mains à 6000 personnes. Alors forcément, nous avons étendu nos mains vers la foule et nous avons ensemble avec Samuel, nous avons prié pour les malades qui se trouvaient dans cette foule. Et ce fou-là est sorti de sa folie. 12 ans fou. Sorti de sa folie. Son père était à côté de lui. Là, lui a enlevé les chaînes aux pieds, aux mains, avec un cadenas, il y avait en plus. Un cadenas en plus. Oui, parce que ces gens-là ont une force satanique. Hein. Alors, ils l'ont enlevé, ils l'ont délié. Et le fou est venu sur le podium, un homme tout à fait normal, d'une intelligence brillante, parce qu'il était cadre et qu'il avait été rendu fou par jalousie, par la sorcellerie africaine. Et complètement normal. Et il est venu, il s'exprimait très bien, il a dit « j'ai faim », ils lui ont donné à manger, ils l'ont lavé et il a demandé à ce qu'on l'héberge dans l'église, jusqu'à ce qu'il retrouve un travail. Enfin, j'abrège là, hein, c'est une longue histoire. Et puis après, il est venu vers les pasteurs et il leur a dit « Ce que vous faites là, de prêcher l'évangile, moi un jour je le ferai peut-être aussi. » Alors voyez un peu, le miracle de Dieu, de fou à prédicateur de l'évangile. Quel chemin, quelle puissance de transformation, de délivrance, de guérison. Il n'y a pas de mots, on ne peut pas expliquer de telles choses. C'est extraordinaire, nous l'avons vu. Et bien sûr, la foule est venue l'acclamer. Toute la ville le connaissait. Une ville de 150 000 habitants, ou plus. Toute la ville. Il y avait le maire de la ville aussi, qui était là, une femme, qui était ministre à la fois et tout. Tout le monde a assisté à ce spectacle grandiose. Du fou de la ville, j'allais dire, d'un des fous de la ville en tout cas, délivré. Gloire au Seigneur, il est le Créateur, tout puissant, tout puissant. Vous savez, quand vous voyez des choses comme ça, vous ne pouvez plus rester les mêmes. Ce n'est pas possible. Sinon, alors vous péchez contre Dieu, c'est grave. Ensuite, je prendrai le deuxième point. Il est le Dieu de toute la création. Le premier point, notre Dieu créateur en tant qu'être humain, mais il est aussi le Dieu de toute la création. Et je peux vous dire en deux mots ce que nous avons vu. Nous avons vu le Seigneur arrêter la pluie au-dessus d'un stade, juste la grandeur du stade. Rien de plus parce qu'on prêchait, parce qu'on faisait une campagne d'évangélisation. Et nous sommes témoins de la puissance de Dieu. Le peuple de Dieu était sur le stade, il commençait à pleuvoir, et vous savez, en Afrique, quand il pleut des cordes, et ça tombe, et vous ne pouvez pas faire une réunion dehors. Ce n'est pas possible avec des instruments, avec un podium, sans abri, sans être abrité. Et donc, la foule était là, et quand ils ont vu quelques gouttes tombées, ils savaient ce que ça voulait dire. Ça fait qu'il fallait arrêter la réunion. Alors ils se sont mis dehors, tous ensemble, et il y en a qui, de nos amis qui étaient là, ont été témoins comment le peuple de Dieu a élevé les mains vers le ciel a dit « Seigneur, arrête la pluie pour que nous puissions faire notre réunion, nous puissions prêcher ton évangile, glorieux, puissant. » Et nous, on est venus nous chercher à l'autre bout de la ville, en voiture, et on a traversé toute la ville d'Abidjan, de 2 millions d'habitants, sous la pluie. On arrive sur place. Le seul endroit sec, c'était le stade. De toute la ville d'Abidjan qu'on avait traversée. Ça vous dit? Parce que le peuple de Dieu a prié. Ils étaient des milliers de personnes. Quand le peuple de Dieu élève ses mains, je vous dis qu'il se passe quelque chose. Et qu'il y croit, bien sûr. Qu'il y croit. Ah oui, c'est ça l'importance. C'est l'importance. Mais croyons que notre Dieu est capable de faire des choses dont nous n'avons pas idée. Ne limitons pas le Seigneur. Troisième point. Le Seigneur est celui qui a eu la victoire sur la mort. Nous l'avons vu manifester sa puissance et comment il a contrôlé la mort qui est venue sur une personne, sur un être humain. Et là, le Seigneur voulait aussi que je donne une dernière fois mon témoignage, comment il m'a sauvé de la mort il y a plus de 40 ans. Quand nous étions missionnaires au Tchad et que nos enfants, on avait deux enfants à cette époque-là, tout petits bébés, et que j'étais mourante, et c'est le Seigneur qui surnaturellement m'a guérie d'une hépatite virale accompagnée d'une crise de paludisme aiguë. Ça faisait 10 jours que je ne pouvais plus manger. Ça faisait 3 jours que je ne pouvais plus boire sous le soleil tapant africain. C'était la mort à coup sûr. Et nous étions en pleine brousse africaine. Et c'est là que les missionnaires se sont réunis avec Samuel parce que j'étais en train de partir. Et moi, j'ai senti la mort venir. J'avais 27 ans, ça vous dit. Alors, j'étais sur mon lit de mort, en train de partir, et je sentais la mort venir. Et les frères ont prié à côté. Et d'un seul coup, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire « Crois-tu que je peux te guérir ? Crois-tu que je peux te guérir ?» Dans ma faiblesse, j'étais tellement une loque humaine. J'étais sur mon lit de mort, alors je n'avais plus de force, plus d'énergie. J'ai dit « Oui, Seigneur, alors donne-moi un petit peu de force. Je n'ai même plus la force de croire. » Quand vous êtes au bord de la tombe, je sais ce que ça veut dire, vous sentez partir, vous dépendez des autres aussi, des prières des autres, sincèrement. Et c'est ce qui s'est passé, puis j'ai dit « Seigneur, donne-moi un peu de force ». Et il m'a donné juste un peu de force. Je me suis traînée par terre, jusqu'à côté, rejoindre des missionnaires. Par terre, je rampais par terre, j'avais 27 ans. Et dans la pièce à côté, je leur ai dit « Le Seigneur m'a parlé, il veut me guérir. Et faites-moi l'onction d'huile. » Et les autres missionnaires se sont réunis autour de moi. Ils m'ont fait l'onction d'huile selon la parole de Dieu, selon Jacques 5. Et ils m'ont imposé les mains. Et à l'instant même où ils m'ont fait l'onction d'huile, ils ont prié pour moi. La puissance de Dieu est descendue sur moi. Et le Seigneur a stoppé l'action de la mort dans mon organisme. En envoyant sa puissance de vie, que j'ai ressenti dans mon organisme comme un courant électrique qui m'a traversé de la tête aux pieds. Très fort. Sans douleur par contre. Hein. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Et moi qui ne pouvais plus marcher, qui étais mourante, je me suis levée. Je suis guérie. J'étais jaune comme un citron à cause de l'hépatite virale encore, hein, qui avait fait ça. Je suis guérie. Le Seigneur m'a guérie. J'avais rien mangé depuis 10 jours. Le lendemain matin, je mangeais un petit déjeuner complet. Plus problème de foie, hépatite, plus rien, jamais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci au Seigneur. Et je sais que si aujourd'hui je vis, c'est parce qu'il a stoppé cet effet de la mort dans mon organisme. Il y a 40 ans. Il m'a donné un sursis de 40 ans jusqu'à ce jour. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur est le Dieu tout-puissant. Et je devais le dire encore une dernière fois. Et puis alors, ce dernier témoignage, qui est celle de cette miraculée du Burkina. Nous faisions un séminaire qui parle aussi de l'action d'arrêter la mort. Parce que le Seigneur est un Dieu de vie et non de mort. Il est la vie. Alors quand la vie vient, la mort stop. C'est tout simple, c'est simple comme ça. Alors, nous faisions un séminaire au Burkina Faso, il n'y a pas très longtemps, peut-être, je ne sais pas, 7-8 ans. Et nous faisions un séminaire parmi les pasteurs du Burkina, de Ouagadougou. Et il y avait à peu près 500 pasteurs à ce moment-là, quelques épouses. Et à un moment donné, le Seigneur me donne cette parole de connaissance. Et j'ai dit de la part du Seigneur, il y a ici un pasteur qui a laissé sa femme très malade à la maison. Le Seigneur est en train de la toucher. Et à l'instant même, cette femme était mourante. Et à des kilomètres de là, à la maison, l'hôpital de Ouagadougou l'avait renvoyée chez elle pour mourir parce qu'elle avait probablement le cancer des intestins. Ils avaient dit, laissez-la aller mourir à la maison, pas la peine d'ouvrir, les intestins sont tout pourris. Laissez-la aller mourir dans sa famille. Alors elle l'avait renvoyée là-bas. Et ça faisait 10 jours qu'elle était sur son lit de mort, elle aussi. Et son mari, regardez le courage de son mari, serviteur de Dieu, il est venu quand même au séminaire en laissant sa femme à l'agonie, j'allais dire. Faut le faire. Le Seigneur a vu aussi la foi de cet homme, l'obéissance de cette femme, de cet homme, la consécration de cet homme. Alors il était là, son mari. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que cette femme, sur son lit de mort, là-bas, dans sa case africaine, elle a entendu la voix du Seigneur lui dire « Il y a une de mes servantes qui est en train de prier pour toi. Je vais te guérir. » C'était la femme d'un pasteur. Alors, elle a vu, elle m'a raconté tout cela après, elle a même dit en public, elle a vu un grand faisceau lumineux descendre dans sa maison africaine, du ciel, comme un projecteur, mais puissant, ultra puissant, qui est venu sur elle et qui l'a traversée de part en part. La lumière, cette fois. Moi, c'était le courant électrique, elle, c'était la lumière. Et cette lumière a traversé son organisme. Elle, qui était presque aveugle, paralysée, qui ne pouvait plus marcher, qui était la peau et les os, le cancer des intestins, mourante à l'agonie, elle avait vu les anges de la mort et tout ça. Elle avait un scénario, elle délirait. Depuis 10 jours. Elle a été touchée par la puissance de Dieu. Elle s'est levée de son lit comme si elle n'avait jamais été malade. Elle a couru dehors. Elle a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alléluia, Seigneur, le Dieu de la vie. Tout est possible à ce Dieu-là. Nous en avons été témoins. Et c'est puissant, je vous le dis, c'est puissant. Il n'y a même pas de mots pour le dire. Gloire à toi, Seigneur. Alors, nous voulons nous lever juste un instant devant le Seigneur et lui dire gloire, gloire à celui qui est mort, mais qui n'est pas resté dans la mort. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Disons-lui, Seigneur, tu es vivant. Tu vis aujourd'hui. Tu es puissant aujourd'hui. Les hommes te limitent, mais toi, ta puissance est illimitée. Peuple de Dieu, crois-le, sa puissance est illimitée. Il est vainqueur sur la mort. Il est le créateur de l'univers. Et il est ton créateur. Alors crois-le simplement et crois que tout est possible pour toi. Alléluia, aujourd'hui, ici à Montélimar, crois-le que tout est possible. Au créateur de ton organisme, à ton créateur. Tout est possible à ton créateur. Ô Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir. Et le Seigneur va se manifester au milieu de nous. Attendons-nous à voir sa main. Il va bénir, il va guérir, il va se glorifier. Croyons-le. Et tout ce plan qu'il va accomplir aussi dans nos âmes et dans nos esprits. Et par sa parole que nous allons écouter avec attention, avec révérence. Sachant que ce Dieu, un Dieu vivant comme ça,
C'est intéressant de l'entendre nous parler, n'est-ce pas? Et ce serait peut-être important aussi de l'écouter. Amen.
Amen.
Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Tu étais ému de compassion devant les malades. Et jamais nous ne nous sommes lassés de te voir à l'œuvre.
Jamais.
Jamais, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci et te donner toute la gloire. Nos vies sont à toi pour le temps et pour l'éternité. Nous voulons toujours mieux te suivre et mieux te servir. Que ton nom seul soit toute la gloire. Merveilleux Maître, tu es aussi ici. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, pour la gloire de mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es là, Seigneur, tu n'es pas un menteur.
Non.
Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Rends-nous attentifs à celle-ci, car tu ne confirmes rien d'autre que ta parole dans nos vies. Illumine notre entendement spirituel, afin que nous puissions comprendre, saisir ce que tu veux nous dire, et surtout que nous soyons obéissants à ta voix. Quand tu nous parles, à toi seul, louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons un Seigneur merveilleux, et il est digne d'être servi. J'aimerais apporter quelques paroles importantes que l'apôtre Jean nous donne dans son épître. Dans l'épître de Jean, nous allons découvrir quelques vérités extrêmement importantes pour les temps dans lesquels nous vivons. L'épître de Jean, la première, il y a là des vérités importantes. Quand vous lisez une épître comme cela, vous voyez que l'apôtre Jean, il n'était pas entre deux chaises, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah oui, il faut pas être trop sévère, il faut être gentil un peu avec tout le monde. Et alors, il faut essayer de toujours de faire plaisir à l'un, à l'autre. Tandis que quand vous lisez cette épître, vous voyez la différence qu'il y a entre la vérité et l'erreur. Et il n'y a pas d'entre-deux. Ou c'est la vérité, ou c'est l'erreur. Il n'y a pas d'entre-deux comme aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a tant de confusion dans beaucoup de vies chrétiennes. On ne sait pas trancher. On ne voit pas les choses comme Dieu les voit. Et on n'avance pas dans notre vie spirituelle. Lisez, je vous conseille de lire l'épître de Jean, la première. Vous verrez que beaucoup de chrétiens ont un langage tout à fait différent. On a l'impression que c'est un autre évangile qu'on entend aujourd'hui dans la bouche de certains. On a besoin de revenir à la base. Amen.
Amen.
Si nous voulons des résultats apostoliques, il nous faut une prédication apostolique.
Amen.
Car il n'y a pas, Dieu ne confirme pas n'importe quoi. Mes idées, vos idées, nos petites pensées un peu sur l'un, sur l'autre, c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Vous avez entendu les témoignages de la puissance de Dieu et vous serez surpris de voir et de savoir surtout que dans toutes nos campagnes, d'une manière générale, nous ne prêchons même pas sur la guérison elle-même avec un message tout spécialement sur la guérison. Et pourtant, Dieu fait des grandes choses et nous accorde de grands miracles. Parce que le plus grand miracle n'est pas la guérison d'un corps. Le plus grand miracle, c'est la guérison de l'âme, le salut de l'âme, la conversion, la nouvelle naissance. Tu peux avoir une guérison et si tu ne mets pas ta vie en règle avec Dieu, tu iras en enfer. Ça, c'est la vérité de la parole. C'est pourquoi il nous faut mettre les priorités à leur place. Dieu veut nous aider, mais il nous faut voir les choses comme Dieu les voit. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses matérielles, terrestres, vous seront données par-dessus. Voyez-vous comme ça marche avec le Seigneur. Et nous, c'est le contraire. On a des versions tout à fait contraires. On dit, Seigneur, bénis-moi d'abord dans mes choses matérielles. Après, je te rechercherai, et encore quand j'aurai le temps. Et je suis souvent malade quand je commence à le faire. Et on n'arrive nulle part. On a mis la charrue devant les bœufs. Est-ce qu'on avance avec comme cela? On n'avance pas du tout. Et si la charrue devant les bœufs, c'est corche. Ils essayent d'avancer, c'est impossible, ils se blessent. Mortellement même. Et voilà pourquoi certains chrétiens sont même blessés mortellement dans leur âme. Parce qu'on ne fait pas les choses comme Dieu le veut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est la santé de ton âme qui est importante. Pense à cela. Si ton âme est en bonne santé, alors tu verras que tout le reste ira beaucoup mieux. Tu seras surpris de voir combien le Seigneur prendra soin de toi. Et même si les choses ne vont pas comme tu veux, même s'il ne répond pas à ce que tu veux, il répond toujours. Amen. Mais selon son plan à lui, selon sa sagesse à lui, et il fait concourir toutes choses pour notre bien. La santé de ton âme est prioritaire devant Dieu. Tandis que nous, ce qui est prioritaire, c'est le matériel, c'est ce qu'on voit. Bénis-moi, Seigneur. Interviens, fais quelque chose. Le Seigneur connaît tout cela. Il n'est pas indifférent, comme on l'a dit, n'est-ce pas? Mais il y a des priorités. Et ici, dans l'épître de Jean, je ne serai pas très long, mais je vais vous donner les 7 signes d'un vrai chrétien né de Dieu. 7 signes. Ou 7 tests d'un vrai chrétien. Quand l'épître de Jean a été donnée, Jean ne mâchait pas ses mots parce que dans l'Église s'étaient introduits des faux docteurs, des faux prophètes et qui annonçaient toutes sortes de choses sur la personne de Jésus, on va le voir tout à l'heure, qui étaient fausses et aussi sur la marche chrétienne, nous allons le voir tout à l'heure, qui disait par exemple, « Oh ben, vous pouvez croire au Seigneur Jésus, mais puisque vous êtes sauvés, ce n'est pas nécessaire que vous abandonniez le péché. Dieu vous aime quand même et vous pouvez continuer. » Il y avait de tels enseignements et l'apôtre Jean a entendu cela et nous le voyons dans l'épître à plusieurs reprises, il leur dit « Éprouvez les esprits !» pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont introduits. Et alors, le peuple était dans la confusion. Voyons brièvement ces 7 signes ou ces 7 tests d'un vrai chrétien né de Dieu. Il y a toujours l'expression « né de Dieu » qui revient, parce que n'importe qui peut dire « moi je suis né de Dieu ». En ayant pratiqué une religion, mais moi je suis né de Dieu, ma religion m'a dit ça. Ce n'est pas ce que ta religion dit qui compte, s'il vous plaît. La religion, ce n'est pas ce qui compte. La religion ne sauve pas. C'est Jésus seul qui sauve. Beaucoup ont une religion, mais ils n'ont pas de sauveur. S'il vous plaît, écoutez bien cela. Un jour peut-être, vous l'entendrez en enfer, mais ce sera trop tard. Et l'apôtre Jean ne bâche pas ses mots. Et pourtant, c'était l'apôtre de l'amour, n'est-ce pas vrai? L'apôtre de l'amour. Premier signe d'un vrai chrétien né de Dieu. Alors, on va comme passer un petit examen. Vous êtes prêts? Un petit examen. De temps en temps, il y en a besoin, les petits examens. Parce qu'à un moment donné, on se prend pour des professeurs, mais on ne sait pas grand-chose. Ou alors, on a mal appris quelque chose. On s'est fait des idées. Et combien de chrétiens se font des idées sur les vérités de la parole? Et alors, on croit que tout va bien, mais la Bible dit que Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Ne vous séduisez pas vous-même. C'est dangereux quand un autre vous séduit. Mais j'allais dire, c'est encore plus dangereux quand vous vous séduisez vous-même. Alors là, c'est terrible, n'est-ce pas vrai? Quand on se séduit soi-même par de faux raisonnements. Alors brièvement, nous allons trouver le premier signe d'un vrai chrétien né de Dieu dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, voici ce que dit le verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Voyez-vous, né de Dieu. Ah, moi je suis né de Dieu. C'est la nouvelle naissance, d'être né de Dieu. C'est quelqu'un qui est né de nouveau par la repentance de son péché, ensuite par la foi dans le sacrifice expiatoire et sanglant de Jésus pour être purifié de son péché, n'est-ce pas vrai? C'est ça. Et quand on le fait sincèrement, on est né de Dieu. On n'est pas né de Dieu, beaucoup le disent, par le baptême des enfants, par exemple. Il y a une doctrine qui court comme cela, dans une religion bien connue. On vous dit maintenant que tu es baptisé, d'ailleurs il devrait dire plutôt aspergé. Il faut bien que les mots soient bien... Voyez-vous comment on tord aussi les mots? Quand on parle du mot baptême, c'est une immersion, le mot grec veut dire immergé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On asperge un enfant. Déjà là, voyez-vous qu'il y a un mensonge. Et c'est comme ça qu'on tord l'esprit des gens. Ah oui, mais moi je suis baptisé. Non, t'as été aspergé. Ah non, mais... Ah, mais on m'a dit ça. Eh ben, t'as eu tort de croire ça. Voilà. Tu aurais dû vérifier. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, premier test, ou le premier signe d'un vrai chrétien né de Dieu, c'est celui-ci. Il croit que Jésus est le Christ. Autrement dit, il croit que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu manifesté en chair. Autrement dit, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Mais en ce temps-là, beaucoup reniaient cela. Ils ne croyaient pas que Jésus était et Dieu et homme en même temps. L'apôtre Jean l'a entendu. Et on disait, mais c'est pas important. Nous, on croit que c'est un homme. Les autres disent que c'est un prophète, un illuminé. Mais il n'est pas Dieu. On entend toutes sortes de choses, n'est-ce pas, sur Jésus. Et là, l'apôtre veut leur dire, le vrai Jésus, c'est celui qui est parfaitement Dieu et parfaitement homme. En Jésus, il y a ces deux natures, la nature divine et la nature humaine. Et celui qui ne croit pas cela ne peut être sauvé. Un peu plus loin, il est dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Voyez, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas reçu, le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, n'est-ce pas vrai? Personne ne peut donner la vie. C'est pourquoi, comme Jésus est Dieu, il peut donner la vie. Alors voyez-vous, il y avait ces hérésies-là sur la personne de Jésus. On diminuait sa personne. Et aujourd'hui encore, même dans des églises, par exemple des libéraux, modernistes, ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et même dans nos milieux, vous savez ce qu'on croit de Jésus? On n'a pas toujours la bonne notion. Dans le mouvement de la foi qu'on appelle en Amérique, eh bien, vous savez ce qu'ils disent? Que quand Jésus s'est incarné, il est venu sur la terre. Eh bien, au moment où il s'est incarné, il a perdu sa divinité. Et il était seulement homme, rempli du Saint-Esprit, mais il était homme seulement. Il n'était plus Dieu. Vous croyez que c'est le Jésus de la Bible, ça?
Ah, pas du tout.
Eh bien, il y a des multitudes qui croient cela, dans nos milieux. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui prêchent cela. Il y a des chrétiens, quand ils lisent ça, ça ne les surprend même pas. Ah, oh, bon, qu'est-ce que c'est que ça? On ne comprend pas très bien. Et puis, ça y est, on gobe ça.
Et on suit de tels auteurs qui ont une vision hérétique de la personne de Jésus. On ne se moque pas de ces choses. Jésus est le Fils du Dieu vivant.
Amen, amen.
Il est la deuxième personne de la Trinité divine. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Celui qui ne croit pas cela ne peut être sauvé.
Oh, dites, ça tranche un petit peu.
Eh ben, lisez un peu l'épître de Jean. Il tranche encore plus que moi. Moi, c'est rien du tout. Il tranche encore plus. Pourquoi ? Parce que c'est une question de vie et de mort.
Oui.
Une question de vie et de mort. De sauvé ou de perdu. C'est tout. C'est tout. Il a vu le danger. Il a vu que la maison était en feu. Avec les premiers chrétiens qui acceptaient un peu n'importe qui. La maison était en feu. Et un authentique serviteur de Dieu vous dira toujours la vérité. Même s'il faut être rejeté. La Trinité, un seul Dieu, pas trois dieux. Un seul Dieu en trois personnes. Et il y en a qui disent que c'est un seul Dieu en une personne. Regardez ça. Et ça, c'est aussi dans certains milieux charismatiques. Un seul Dieu, une personne. Les Jésus-Sol, par exemple, les branhamistes. Vous en avez entendu parler, peut-être, dans le temps. Eh bien, eux, c'est ça. Ils vous baptisent au nom de Jésus parce qu'ils disent que Jésus, c'est Dieu. Bon, ils croient cela. Mais le Père et le Saint-Esprit, c'est tout en Jésus. Ils disent que c'est la même personne qui manifeste trois ministères. Vous voyez la séduction. Une personne avec trois ministères, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est une personne. Quelle hérésie! Christ, ou la vision biblique, c'est un seul Dieu en trois personnes. Attention. Regardez le témoin de Jéhovah, juste pour prendre un exemple. Pourquoi disent-ils Jéhovah quand vous leur dites « Mais Jésus, ah oui, mais Jésus, il est inférieur. » Voyez-vous, tout de suite, Jésus est inférieur. Et c'est un Dieu, mais avec un petit dé. Comme si ça pouvait exister, un Dieu avec un petit dé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voyez-vous, on diminue la personne de Jésus. Et c'est ça, l'hérésie que Jean combattait et qu'il faut combattre encore aujourd'hui. Il y a un test que tu dois passer. Qui est le Jésus en qui tu crois? Est-ce le Christ, le Fils du Dieu vivant? La deuxième personne de la Trinité, qui seul a donné sa vie pour toi et dont le sang seul peut te purifier de tes péchés. S'il n'est pas aujourd'hui ton sauveur, un jour il sera ton juge. Celui dont tu t'es moqué un jour, tu devras te représenter devant lui. On ne se moque pas de ces choses. Amen. Premier test. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alléluia. Parce que lui seul donne la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Bon, allons un peu plus loin. Deuxième test. 1 Jean 2, 29, il y a une autre pensée importante. Toujours dans l'épître de Jean. « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Alors ici, il y a une autre pensée importante. Si vous savez qu'il est juste, donc que Dieu, que Jésus est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Là, justement, il dénonce encore une fois une autre hérésie. Alors je vais vous donner le deuxième point. Le chrétien qui est vraiment né de Dieu, il marche dans la sanctification. Voilà, une deuxième vérité que les hérétiques à ce moment-là avaient complètement rejetée. Parce que comme je vous l'ai dit, ils disaient que tu peux accepter Jésus et même si tu n'abandonnes pas ton péché, tu es quand même pardonné. Quelle hérésie terrible, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Jean pouvait rester silencieux devant une telle chose? C'est impossible! Et quel est l'argument qu'il donne pour cela? Écoutez bien, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Il veut dire par là, attention, si Dieu te demande de marcher dans la justice, c'est-à-dire dans la sainteté, là, la sanctification, ce mot veut dire cela, eh bien, tu dois marcher dans la justice, dans la sanctification et la sainteté. Pourquoi? Parce que Dieu, le Seigneur, le Sauveur est juste. Parce que tu sers un Dieu saint et juste. Dans l'épître de Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Pierre le dit bien. La référence dans Pierre, il le dit, 1 Pierre 1, 15 et 16, « Soyez saints, car je suis saint. » Vous voyez, il y a la même pensée. « Soyez saints, mais pourquoi ? » Parce que je suis saint, parce que Dieu est saint. Alors voyez-vous ici le langage, c'était « Dieu est amour » et « parce qu'il est amour », eh bien, il nous pardonnera toujours. Quel langage hérétique! Quel langage trompeur! Le test pour toi et pour moi est celui-ci maintenant. Si tu dis que tu es né de Dieu, alors, puisque ton Sauveur est saint et juste, tu dois marcher comme lui, dans la sainteté et dans la justice. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas né de Dieu. Tu te trompes toi-même. Tu te séduis toi-même. Ah oui, mais moi, on m'a dit que... On t'a dit que quoi? C'est pas ce que les autres disent qui compte. Ce n'est même pas ce que je dis qui compte. C'est ce que la parole de Dieu dit. Reconnaissez que quiconque pratique la justice de Dieu, si vous savez qu'il est juste, beaucoup ne le savent pas, parce qu'ils n'ont qu'un Dieu d'amour, mais le Dieu de sainteté, ils ne le connaissent pas. Beaucoup de chrétiens ne parlent jamais d'un Dieu de sainteté, mais toujours du Dieu d'amour. Ah oui, il est gentil, il me bénit, il nous aime. Et si je fais quelque chose, c'est pas grave, il me pardonnera toujours. Est-ce que ça existe, ce langage? Est-ce que j'exagère? Dites-moi un petit peu. Est-ce que j'exagère? Mais il y a encore des multitudes de chrétiens qui parlent comme ça, et même des pasteurs, qui devraient en savoir un peu plus que ça. Vous êtes d'accord? On en est là! Et l'apôtre Jean ne pouvait pas se taire. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup de si dans l'épître, là. Pourquoi? Parce que beaucoup se croyaient parfaits, beaucoup se croyaient bien. Ils faisaient n'importe quoi. Ils disaient qu'ils étaient nés de Dieu, qu'ils étaient sauvés. Et ils faisaient n'importe quoi. Et Jean a dit, mais c'est quoi? C'est la pagaille totale, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde se dit chrétien, et on ne vit pas comme des chrétiens. On vit comme des païens. Alors, il est temps de réaliser un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on vit ces temps-là, n'est-ce pas vrai? On vit ces temps d'apostasie. Il n'y a pas longtemps, nous avions un téléphone d'une amie, d'une responsable au Canada. Elle nous a dit, chers amis, elle a dit, ce qui se passe ici dans les églises, eh bien, évangélique et tout ça, pentecôtiste. Elle a dit, mais c'est incroyable. Il se passe n'importe quoi. N'importe quoi. C'est vraiment l'apostasie maintenant. C'est pourquoi nous devons nous réveiller et ne pas dire « Ah oui, mais puisque les autres le font, moi, je peux le faire, puisque le pasteur le dit. » Il n'est pas ça. Est-ce que Jésus l'a dit? Est-ce que la parole de Dieu le dit? Si tu n'as pas la parole de Dieu comme appui, tu es séduit. Et vous savez la définition de la séduction? C'est ne pas savoir que l'on est séduit. C'est on ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'on ne sait pas.
C'est terrible, ça.
C'est la pire des séductions. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Alors, le test. Vous devez passer un test. Quelle est votre attitude à l'égard du péché? Et votre désir de sanctification? Est-ce que vous avez ce désir de marcher avec le Seigneur? Si on aime le Seigneur, on doit haïr le péché. Est-ce qu'il y a cette attitude? Si elle n'y est pas, alors c'est un faux christianisme que tu suis. C'est un faux évangile. Parce que Dieu est amour, c'est vrai, mais il est aussi saint. Et son amour est un amour saint. Ce n'est pas un amour bonbon qui fait la volonté de n'importe qui. Allons plus loin. Troisièmement, 1 Jean chapitre 2, versets 3, 4 et 5, on va lire cela. Si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. Voyez-vous, il y a là la naissance de Dieu, nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit « si, ceci ». Vous voyez, les gens se posaient beaucoup de questions. C'est comme si on disait « ah, mais vous, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça ». Mais c'est pas ça le plus qui est définitif. C'est ce que Dieu dit. Vous faites un tas d'idées. Quel était le point principal ici ? Si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. 1 Jean 5, 3, 2, 3. Autrement dit, le test, il garde la parole et obéit à cette parole. Voilà. Il obéit à cette parole. Il garde ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Pourquoi commandements ? Ce n'est pas comme une loi. C'est un commandement parce que ce ne sont pas des conseils. Pour beaucoup, la parole de Dieu, ce sont des conseils, des options. Ah, c'est une option. Oui, toi, tu lis ça, d'accord. Toi, tu prends ça pour toi, mais moi, c'est différent. Ah bon ? Ah, t'as une version différente ? Ah, il y a beaucoup d'options. Ils ont beaucoup d'options. Beaucoup d'options. Mais la Bible n'est pas un livre de conseils ou un livre d'options. Ce sont des commandements. Cela veut dire que si tu n'obéis pas, tu enfreins la loi, tu enfreins sa parole. Et tu révèles que tu es un pécheur. Et tu ne peux avoir la bénédiction de Dieu. Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous l'avons connu. Alors, voyez, le troisième test est celui-ci. Il garde et obéit à la parole de Dieu. Obéit à la parole de Dieu. Ça, c'est un test important. Dire que nous sommes sauvés et que nous n'obéissons pas à cette parole, nous, il est dit, qu'est-ce qu'il est ? Il est un menteur, un menteur. À un moment donné, il faut prendre Dieu au mot. Il faut dire, Seigneur, tu l'as dit, je le crois et j'obéis. Et tant que nous n'arrivons pas à ce stade-là, nous ne comprendrons pas d'abord, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent comprendre avant d'obéir. Et Dieu dit, c'est exactement le contraire. Obéis et tu comprendras. Nous, on dit non, non, moi je veux comprendre, après j'obéis. Eh bien, tu pourras attendre longtemps. C'est pas comme ça que ça marche. Vous croyez que Dieu va vous donner des lumières comme ça si vous voulez pas obéir ? Vous prenez Dieu pour qui ? Voyez-vous comment vous faites des mauvaises idées sur Dieu ? Vous croyez que vous pouvez manipuler Dieu comme ça ? Vous croyez que Dieu est manipulable ?
Non, pas du tout.
La vérité de Dieu n'est pas négociable. Si tu ne changes pas, la parole de Dieu ne changera jamais.
Jamais.
C'est toi qui dois changer.
Absolument.
Pour ton bien.
Ouais.
Et il nous dit que nous sommes des menteurs si nous disons que nous sommes sauvés, nés de Dieu, et que nous n'obéissons pas. Autrement dit, quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'aime pas la méditer, c'est un très mauvais signe spirituel. Très mauvais. Très, très mauvais. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on découvre des trésors merveilleux. Alléluia. Elle est la nourriture de notre âme. Amen. Quatrièmement maintenant, allons un peu plus loin. Au verset 1 Jean 3, 9, il y a une autre pensée importante. Quiconque est né de Dieu. Voilà. Vous voyez, l'expression « né de Dieu » revient. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ouh là là. Alors ce verset a été très très mal interprété. Comme pour dire que quand on est chrétien, ben normalement on ne doit plus pécher. Et certains ont compris cela, mais c'est tout à fait une erreur. Puisque l'apôtre Jean lui-même ailleurs dit que si quelqu'un péchait, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, il ne voulait pas dire ça. Et ce texte a fait beaucoup de mal à beaucoup de chrétiens parce qu'il n'a pas été expliqué comme il le fallait. Ah, parce qu'on fait une erreur, on fait une bêtise. Allez, ça y est, alors, donc, je suis perdu. Donc, Dieu n'est plus avec moi. Ce n'est pas ça. Le texte ici veut dire ceci. Je vais vous donner d'abord la pensée, le quatrième test. Il ne continue pas dans une vie de péché. Et soulignez le verbe continuer. Il ne continue pas dans une vie de péché. Quand il est dit ici, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le texte grec veut dire, il ne continue pas à vivre dans le péché. C'est tout à fait autre chose. Vous êtes d'accord avec moi ? Il ne continue pas. Pour certaines personnes qui se disent chrétiennes, le péché est une habitude. Si le péché est une habitude pour toi, alors tu dois te faire du souci. Selon l'apôtre Jean, le péché ne doit pas être une habitude. Un accident, ça doit être un accident. Un accident, ça peut arriver. Et encore, quand ça nous arrive, on n'est pas tranquille. On sait qu'au fond de nous-mêmes, et on a fait quelque chose qui a déshonoré Dieu. Mais certains chrétiens, ils ont, même quand ils pêchent, ils disent, tout va très bien, madame la marquise. Tout va bien, mais c'est pas grave, c'est rien, voyez-vous. Et si le Saint-Esprit est en toi, vraiment, si tu es né de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi va te dire, mon enfant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as mal agi. Tu as mal agi et tu dois changer de comportement. Amen. Donc, celui qui est né de Dieu ne continue pas de pratiquer le péché. Il a abandonné le péché. Et s'il lui arrive de faire une faute, c'est jamais volontairement. C'est un accident. Et il en est triste. Triste. Comme pour dire, Seigneur, pardonne, purifie-moi. Quand Pierre s'est effondré et a déshonoré le Seigneur, est-ce qu'il l'a déshonoré une deuxième fois comme il l'a fait ? Est-ce qu'il l'a fait ? Non. Voyez-vous, il était tombé dans un piège, mais il a appris la leçon. Il y avait une vraie repentance. Seigneur, Seigneur, plus jamais ça. Plus jamais ça dans ma vie. Mais beaucoup de chrétiens, ils continuent de pécher. Il n'y a rien de spécial. On continue comme d'habitude. Et naturellement que ça ne va pas. Et que Dieu ne peut bénir une telle chose. Et en plus, ces personnes se croient chrétiens. Tu devrais te poser des questions. Si tu es vraiment né de Dieu, le Saint-Esprit en toi te reprend. Et te dit, mon enfant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et viens au pied de la croix. Humilie-toi devant moi. Change. Amen. C'est ça le test. Mais si vous croyez que tout va très bien, quand même quand vous faites mal, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie spirituelle. Ensuite, quatrième, on en est où ? 4, 5 ? 1 Jean 3, 13. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Voilà. Si le monde vous hait. 1 Jean 3, 13. Donc, le vrai chrétien né de Dieu, il est haï par le monde. Il est haï par le monde. Et pourquoi ? Parce qu'il a un style de vie qui est tout à fait à l'opposé des gens du monde. Vous êtes d'accord avec moi ? Et quand vous êtes avec quelqu'un qui fait n'importe quoi et que vous, vous faites exactement le contraire, vous croyez que la personne à côté de vous, elle est heureuse ? Elle est malheureuse. Non seulement elle est malheureuse, mais elle vous en veut. Et alors, elle vous accuse de toutes sortes de choses, vous êtes d'accord avec moi ? Mais toi, tu te crois pour un supérieur aux autres, t'es un vrai pharisien, on vous dit n'importe quoi, pour qui tu te prends ? Tu tiens un petit Jésus, toi ? Et on se moque de vous. Il est haï par le monde. Pourquoi ? Parce que sa vie est différente de celle du monde. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas haïs du tout, ils sont même amis. Pourquoi ? Parce qu'ils font exactement comme les autres. Entendre certains, par exemple, pour aider un fumeur, il faut fumer avec lui. Mais oui, et comme ça, tu vois, tu ne le culpabilises pas. Il fume, demande s'il arrête un petit peu. Allez, ah bon, je crois que tu étais chrétien. Ah non, mais tu vois, c'est pour parler un peu du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas parler du Seigneur après ça ? Après ça, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Oh, Jésus m'a transformé, il m'a délivré de mes passions. Ah, tu n'oseras jamais dire ça ! Parce qu'il va te dire, et cette passion-là, il ne t'enlève pas. Et vous savez ce que j'ai lu là, je vous dis ça en vitesse, sur Spurgeon. On connaît tous Spurgeon, le fameux prédicateur anglais. Mais savez-vous que dans la deuxième partie de sa vie, il y avait quelque chose qui encore déshonorait Dieu dans sa vie. Et vous savez comment le Seigneur lui a parlé ? Un jour, il se promenait dans les rues de Londres, je crois. Et puis là, il passe devant un magasin où il vendait des cigarettes et des cigares. Et vous savez ce qu'il aperçoit ? Des cigares, des beaux cigares comme ça. Et sur ces cigares, il y avait un nom. Chacun a sa marque. Et c'était des cigares Spurgeon. Pourquoi ? Parce qu'il fumait encore le cigare. Quand il a vu ça, il a dit, c'est le témoignage que je vais laisser après ma mort. Qu'après ma mort, on va penser plutôt à mon cigare qu'au Seigneur. Et il a dit, à partir de maintenant, plus jamais. Et c'était terminé. Plus jamais. Il vaut mieux tard que
jamais.
Bon, on y va, on va plus loin. Sixièmement, 1 Jean 3, 14, 16. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Alors, sixième test. Il aime ses frères. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Voyez-vous, encore une fois, le mot amour a été complètement galvaudé. Et là, le Seigneur donne la réponse. Nous avons connu l'amour. Vous voyez ? Il fait toujours référence avec le Seigneur. Il y a un exemple. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Voilà le véritable amour. Et bien maintenant, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà, le véritable amour, c'est ça. Il aime du véritable amour. Voilà le sixième point. Il aime du véritable amour qui est de se sacrifier soi-même. Comme Jésus a donné sa vie, nous aussi, nous devons nous sacrifier, renoncer à nous-mêmes pour être une bénédiction aux autres. Oui, c'est un point important. J'avais noté ça il y a quelques années. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Il n'y a pas de véritable amour sans esprit de sacrifice. Mais beaucoup ne connaissent pas ça. L'amour, pour eux, c'est toujours « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». L'amour est toujours centré sur soi. Ce n'est pas ça le véritable amour. Jésus nous l'a montré, il a donné sa vie. Le véritable amour nous coûte. C'est s'oublier soi-même pour être une bénédiction aux autres. C'est cette générosité personnelle. Et non pas être toujours là en train de chercher, comme être une sangsue spirituelle, en train de toujours sucer des bénédictions. Le véritable amour, c'est l'opposé. C'est un esprit de sacrifice. À partir de maintenant, Seigneur, comme toi tu as donné ta vie pour moi, moi maintenant, je m'oublie moi-même. Et je veux donner ma vie pour mes frères. C'est-à-dire, je ne veux plus penser à moi-même. Je veux que tu m'utilises pour être une bénédiction aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire leur quatre volontés. Pas du tout. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Quand vous aimez vraiment, vous direz toujours la vérité. Quand quelqu'un vous dit « Oh, mais moi, je vous aime » et tout, mais qu'on cache la vérité, cette personne ne vous aime pas. Elle a des sentiments humains, mais elle n'a pas de l'amour. L'amour se conjugue toujours avec vérité. Celui qui aime, c'est celui qui dit la vérité. L'apôtre Jean, un peu plus loin, dans les deuxièmes épîtres, troisième épître, il dit bien l'ancien à Kyria, l'ancien à Gaius, que j'aime dans la vérité. Regardez, que j'aime dans la vérité. C'est pas un amour bonbon, comme j'ai dit, oh, je vous aime, tout va très bien. Et on n'ose plus dire la vérité. Ça, ce n'est pas un véritable amour. Et il y en a combien qui sont séduits par ça? Parce qu'ils pensent que comme ils couvrent tout et qu'ils sont gentils avec tout le monde, ils ont la véritable compréhension de l'amour. Menteur! Tu es séduit toi-même. C'est un mensonge! Hein? Naturellement, tout le monde t'applaudit, tout le monde est bien gentil avec toi. Hein? Alors c'est Jésus et c'est les apôtres qui n'étaient plus d'accord, qui n'étaient plus comme ça. Pourquoi alors est-ce qu'on a crucifié le maître? C'est parce qu'il a dit aux gens qu'il les aimait tous comme ça? Et pourquoi les premiers apôtres et les premiers chrétiens ont beaucoup passé par le martyr? C'est parce qu'ils annonçaient la vérité. Amen. Et quand on dit la vérité, on est forcément rejeté. Certains l'accepteront, Dieu soit béni. mais il y en a d'autres qui la rejetteront. Mon ami, as-tu passé ce test? Il aime dans du véritable amour, qui s'oublie soi-même. Sors de ton égoïsme, de ton égocentrisme, où tu ne penses qu'à toi du matin au soir. Terminons. Septième test, 1 Jean 5,4. Qu'est-ce qu'on trouve là? Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu, voyez-vous, triomphe du monde. Le vrai chrétien né de Dieu, il triomphe du monde. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le triomphe du monde, c'est tout simple. Vous savez, il ne faut pas chercher trop à donner des explications super spirituelles. C'est tout simplement ça. Quand on aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, tout attrait du monde disparaît complètement. Amen. Vous n'en avez plus besoin. Vous triomphez du monde parce que vous avez trouvé quelque chose de meilleur. Et d'infiniment meilleur. C'est pourquoi vous n'avez même pas envie de retourner dans le monde. Mais certains chrétiens, quand vous les entendez, vous devez toujours être là pour les retenir. Si tu ne me retiens pas, je fais un malheur. Je fais un malheur, je retourne dans ma vie de péché. Ah oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Vous m'avez vu cette crosse-là. Mais moi, à partir de maintenant, c'est fini maintenant. C'est fini, le Seigneur et tout le monde, c'est terminé. On a eu un courrier par Internet ces jours passés qui nous a fait frémir. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un parler comme ça, d'une soi-disant chrétienne, qui dénonçait même les fausses doctrines. Et vous savez ce qu'elle nous a dit? Elle a dit, j'ai renoncé, je renie Dieu et Jésus-Christ.
Et puis elle a évangélisé...
Dans les gares, à Genève, là-bas. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi je vais vers le bouddhisme, eux, ils ne jugent personne. Son problème, c'était qu'elle ne voulait pas être rejetée, elle voulait être acceptée par tout le monde. Terrible. Voyez-vous comme c'est un piège? Elle a renié sa foi et renié le maître. C'est la première fois que nous recevions un tel courrier parlant avec une telle audace, un tel toupet. Oui, elle a dit, ah oui, comme tu parles de ça, dans son courrier, vous savez ce qu'elle a dit? Eh bien, j'ai parlé à Dieu et je crois qu'il a dû passer un mauvais quart d'heure ce jour-là.
Et je lui ai dit les quatre vérités, elle a dit.
Oui, voilà. Vous vous rendez compte de comment on parle de Dieu? Dites-moi, c'est pas un blasphème ça? Ça va loin, ça va loin, ça va loin. Mes amis, combien nous devons veiller? C'est ce que Jean avait ici, là, dans la tête. Attention!
Et puis elle a dit aussi, je regrette d'avoir cassé les oreilles à tous ces gens-là avec votre histoire.
Avec l'évangélisation. Voilà, je le regrette profondément. Et les gens sont bien maintenant, comme pour dire chacun dans sa petite religion et tout va très bien. C'est directement l'esprit de l'Antichrist qui mène à l'abîme et à la perdition éternelle. Que Dieu ait pitié de son âme.
Oh oui,
et qu'elle revienne un jour, avant qu'il ne soit trop tard. Il triomphe du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus envie du monde. Mes amis, quand on a goûté le Seigneur, il y aura qu'est-ce que j'ai dit que j'ai pris comme verset ici? Il y a d'abondantes joies devant ta face. Psaume 26, 11. Acte 2, 28. Tu me rempliras de joie par ta présence, regardez, la présence du Seigneur, quand on s'est donné entièrement à lui, mes amis, tout goût pour le monde disparaît. Il peut y avoir quelques tentations, mais ces tentations, voyez-vous, on en triomphe, parce qu'on se dit, mais j'ai quelque chose de bien meilleur. Ne sois pas stupide, ne retourne pas à ce plat de lentilles, ne fais pas de Dieu ton ventre. Nous avons, il y a d'abord, ne fais pas
de ton ventre ton Dieu.
Et ça ne va pas à l'inverse, non?
Non, d'accord,
c'est bien. Pourquoi nous triomphons du monde? Parce que nous avons trouvé auprès du Seigneur tout ce qu'on désire. Il nous satisfait pleinement. Amen? Pleinement. Mais il faut se donner entièrement, mes amis. Voilà pourquoi certaines personnes sont là pendant des années. Ça n'avance pas. Ça avance. Vous avez l'impression que ça avance et puis qu'un jour après, ça recule. C'est pourquoi l'explication est simple. On ne se donne pas entièrement. On ne se repent pas de tous ses péchés, on se repent de trois petites choses. Mais de son égoïsme, de son orgueil, de sa vie personnelle qu'on ne veut pas abandonner. Ses passions, certaines passions. Je finis. Que le Seigneur nous aide. C'est comme cela que tu triompheras du monde. En ayant en Jésus toute la satisfaction profonde de ton âme. Il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternels à sa droite. Donne-toi entièrement et le Seigneur se donnera entièrement à toi. Tu ne le regretteras jamais. Tu regretteras qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt que cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acceptons de passer par ces tests. Amen. Ne nous passons pas de la pommade. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Soyons vrais. Ne mentons pas. Et la vérité vous rendra libre. Amen.
Le Seigneur nous connaît tous. Et il sait aussi qu'au milieu de nous, il y a une personne cet après-midi qui se rend compte qu'elle est sur le mauvais chemin. Elle en a entendu assez cet après-midi pour être convaincue de cela. Et le Seigneur vous exhorte cette personne à prendre la décision d'abandonner le mauvais chemin sur lequel elle se trouve. « Je suis la lumière du monde », a dit le Seigneur. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Amen.
Toi qui as marché dans les ténèbres jusqu'à ce jour, change de direction. Ouais. Détourne-toi de tes ténèbres et va-t'en dans la direction de la lumière. Jésus est la lumière.
Amen.
Ne suis pas tes propres pensées. Ne suis pas ta religion. Suis Jésus.
Amen.
Parce que ta religion ne t'amènera pas aux pieds de Jésus. Cette religion-là n'amène pas aux pieds de Jésus.
Amen.
Seigneur veut insister là-dessus.
Amen.
Et puis,
merci.
Seigneur a une parole d'exhortation aussi à donner à quelqu'un qui sert le Seigneur au milieu de nous. Et il te dit, toi qui me sers, la question que tu dois te poser n'est pas « qu'ai-je accompli pour le Seigneur ?» mais plutôt « qu'est-ce que le Seigneur a pu faire au travers de moi ?» Détourne tes yeux de toi-même et de tes œuvres, te dit le Seigneur. Ton horizon est limité, alors que le mien est illimité. Laisse-moi gérer ta vie, t'utiliser davantage pour accomplir mon œuvre. Je voudrais encore me glorifier dans et au travers de ta vie.
Amen.
Abaisse-toi devant les pieds du Maître et lui-même t'élèvera. Ne t'élève pas à tes propres yeux, mais va, marche dans l'humilité devant ma face, dit le Seigneur. Et je te donnerai d'autres choses à faire que tu ne connais pas encore. J'ai des plans d'amour pour toi, pour te conduire plus loin dans mes voies. Merci Seigneur. Louange à toi. Nous te prions pour ces deux personnes afin qu'elles puissent prendre la décision dont qu'elles ont besoin de prendre.
Cet après-midi.
Oui, prends la décision. Alléluia. Toi qui te sens concerné par ces paroles du Seigneur, prends la décision de changer de chemin.
Alléluia.
Et toi, prends la décision de remettre ta vie davantage au Seigneur.
Alléluia.
Et de t'abaisser devant lui afin qu'il puisse t'utiliser davantage.
Merci,
c'est son plan
Seigneur.
Pour toi. Alléluia,
Amen.
Seigneur. Amen.
Amen. Nous allons tous nous lever maintenant et nous allons chanter ce petit chœur « Par son sang, je suis racheté ». Et s'il y a des personnes qui veulent ce soir, cet après-midi, prendre cette décision de se repentir de leur péché et de croire et de mettre leur confiance dans le sacrifice sanglant de Jésus pour être pardonné, purifié, afin qu'il puisse entrer dans votre vie et naître de nouveau. Vous pouvez le faire pendant qu'on chante ce chant.
Oui.
Là où vous êtes, prenez cette décision.
Amen.
Tout pour tout non au péché.
Amen.
Plus jamais ça.
Amen.
Non seulement au péché, mais à votre vie égocentrique.
Oui. Amen.